Place Info. 20h-21h, France Info, les informés.
Nicolas Creusel.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre heure de débat sur l'actualité. Après une journée intense encore sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron au centre du monde, pas forcément le roi du monde pour autant, le chef de l'État a reçu aujourd'hui les chefs de gouvernement britanniques et grecs. Il est en ce moment avec le Premier ministre indien, tout ça à 48 heures du G7 de Biarritz. Cette séquence est-elle intéressante pour le chef de l'État? On en parlera évidemment dans cette émission. Un G7 bunkérisé, disent les ONG, sous haute sécurité. Et bien justement, ce qui assure cette sécurité, les policiers ont le blues, ils sont fatigués, ils crient leur épuisement après les mois de gilets jaunes. Épuisement, ils espèrent aussi faire entendre leur voix à Biarritz. Là encore, on en parlera. Emmanuel Macron sur tous les fronts et à gauche, tous les fronts contre Macron. La ville rose, Toulouse, est plutôt rouge avec les insoumis qui tiennent leur amphi d'été et un peu verte aussi. Même beaucoup verte, avec la rentrée toujours à Toulouse, d'Europe Écologie Les Verts. Quelle stratégie, quelles alliances, comment peser sur la rentrée et surtout comment préparer les municipales. Et puis un maire, justement, au tribunal administratif pour avoir interdit le glyphosate à moins de 150 mètres des habitations. Ce n'est pas de son ressort, dit la préfecture. Mais qui est le mieux placé pour protéger ses administrés que le maire, rétorque l'élu local. Ce sera là aussi l'objet d'un de nos débats ce soir. Débat avec Éric de Couty, directeur délégué de Marianne.
Non, il n'est plus.
Il n'est plus. Alors Éric de Couty.
Voilà, je suis plus à Marianne.
Eh bien écoutez, ça aurait été, je suis confus. Jeannick Alimi, rédactrice en chef adjointe au service politique d'Aujourd'hui en France, Le Parisien.
Encore.
Je vous le souhaite. Michel Soudé, rédacteur en chef adjoint à Politis.
Bonsoir.
Et Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info.
Bonsoir.
Merci
Nicolas.
D'être là tous les quatre. Il a donc reçu lundi Vladimir Poutine à Brégançon. À partir de samedi à Biarritz, il sera pour le G7 aux côtés de Donald Trump, d'Angela Merkel et d'autres chefs d'État et de gouvernement membres du G7. L'un d'entre eux a d'ailleurs aussi eu ses honneurs en tête-à-tête ce midi. C'est Boris Johnson, nouveau Premier ministre britannique. Et puis dans la foulée, pour Emmanuel Macron, un entretien avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Et enfin, en ce moment même, la visite officielle du Premier ministre indien Narendra Modi. Séquence diplomatique extrêmement dense pour le chef de l'État. Est-ce qu'on peut dire qu'il est le roi du monde ces jours-ci, Jeannick Alimi?
Écoutez, tout dépend de quel roi vous parlez. C'est un roi absolu, un roi constitutionnel, un roi qui n'en a que l'apparence et pas du tout le pouvoir. Écoutez, en tout cas, sur la scène européenne, en tout cas de facto, les images qu'il dégage entre les rencontres qu'il a eues hors G7, le G7 qui va avoir lieu, Emmanuel Macron, effectivement, occupe la place et essaie d'avoir, sinon un pouvoir, en tout cas une influence auprès des plus grands de ce monde. On sait que c'est un exercice auquel la fonction de président de la République, de la 5e, se prête totalement, puisque la politique étrangère est un peu le domaine réservé du chef de l'État et qu'Emmanuel Macron ne boude pas ce type de prérogative. Et qu'en outre, sur la scène européenne en tant que telle, il est bien seul, parce qu'Emmanuel... Angela Merkel.
Angela Merkel est un peu
évidemment l'autre géant
sur le déclin, on va dire.
Bah sur le déclin, je sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas sûre de vouloir se représenter l'année prochaine. Donc, il joue des prérogatives qui sont les siennes. Il joue de l'absence ou de la fragilité d'autres partenaires, et puis en plus, ça lui plaît.
Éric de Couty, alignement des planètes en quelque sorte pour Emmanuel Macron. Il y a le G7 à Biarritz, il y a les autres puissances européennes un peu affaiblies.
Je crois pas que ce soit un alignement des planètes, c'est une séquence internationale, comme l'a dit Jeannick. Il aime bien cet exercice, c'est un exercice apaisé pour l'instant, a priori, on va voir comment ça se passe à Biarritz, qui n'augure rien de la séquence plus franco-française, la séquence sociale qui va s'ouvrir. Donc c'est plutôt, moi je dirais que c'est plutôt peut-être une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène avant une rentrée sous apnée.
Michel Soulet, vous êtes d'accord?
En apnée.
Oui, parce que là, le G7, c'est il y a une présidence tournante. Hein. Là, il se trouve que
ça tombe sur lui.
Ouais, mais bon. On avait vu dans le passé Nicolas Sarkozy aussi en tirer bénéfice et notamment aussi quand il avait été à la présidence tournante de l'Union européenne. Maintenant. De fait, ce G7, qu'est-ce que c'est au départ? C'était Giscard qui l'avait institué pour avoir une rencontre un peu informelle entre chefs d'État, comme des amis qui se retrouvent à la campagne. C'était une structure assez légère. Là, c'est devenu extrêmement codifié. C'est un barnum avec, on le voit, une ville complètement cadenassée par la police, des gens qui se retrouvent entre eux complètement fermés. Et c'est un petit club fermé qui est très occidental. Donc Emmanuel Macron, de ce côté-là, a bien fait d'inviter...
D'élargir un peu, d'avoir le
chef d'État indien. Parce que là...
Il y a le Japon.
Oui, enfin, non, c'est quand même très, très, très occidental. Oui. Et bon, c'est plus vraiment... c'est au moment où le monde est de moins en moins occidental. Je pense que s'il y a un club qui a pris un peu plus de poids au niveau international, c'est quand même le G20 qui est beaucoup plus représentatif.
Bien sûr, parce que c'est plus large.
Et le fait d'avoir exclu la Russie a renforcé le côté occidental du G7.
Mais on est quand même là dans une séquence intense. Jean-Jérôme Bertolus, vous qui scrutez plutôt la politique intérieure, est-ce qu'il peut tirer des bénéfices ?
Contrairement à ce que vous avez dit, les planètes ne sont pas du tout alignées. Les planètes, au point de vue diplomatique, sont complètement désalignées.
Je dis des bêtises ce soir. Tu es en train de m'expliquer depuis que j'ai commencé l'émission, je dis des bêtises.
C'est un espèce de chaos quand même au niveau mondial. Et donc, c'est en ce sens-là, si vous souhaitez effectivement que les planètes sont alignées, ça veut dire que chaque pays doit jouer sa carte, doit affirmer en quelque sorte une politique diplomatique. Et par exemple, ça a été très frappant, Donald Trump a dit, eh bien, il faut que le G7 redevienne un G8 et accueille Vladimir Poutine et la Russie.
Alors, il le dit deux jours avant qu'on arrive, c'est un peu...
Et Emmanuel Macron, lui, a dit oui, mais à une condition, effectivement, il faut... On ne peut pas passer par pertes et profits la Crimée, on ne peut pas passer par pertes et profits ce qui se passe en Ukraine, donc à certaines conditions. Donc c'est en ce sens-là où effectivement ce G7 est intéressant et il n'y a pas de conclusion à G7, d'ores et déjà on le sait. C'est toujours intéressant, surtout dans ces périodes troublées, que les dirigeants de ce monde, même si effectivement c'est plutôt du côté occidental, arrivent à se parler.
On continue ce débat sur le G7 avec Éric Decouty. Vous aurez la parole juste après le rappel de l'info puisqu'il est 20h10, Claire Flochel.
Sergio Mattarella est en train de s'exprimer. Le président italien annonce qu'il va accorder plus de temps aux partis pour essayer de former un nouveau gouvernement après la démission du Premier ministre mardi. Elle menaçait de ne pas se rendre au sommet du G7 à Biarritz ce week-end et de ne pas venir demain pour la rencontre avec le président à l'Elysée pour des consultations. Les ONG du réseau Action Climat se disaient mises à l'écart, mais l'Elysée revient sur sa décision ce soir. Les ONG auront finalement accès à la salle de presse lors du G7. Elles pourront aussi avoir un contact direct, comme prévu, avec la délégation française. Dans le cadre de ce sommet, justement, un militant et reporter allemand de nouveau interpellé. Il l'avait déjà été le 9 août à Dijon, ce qui avait conduit à son expulsion du territoire français. Eh bien, l'homme a de nouveau été arrêté hier au Pays Basque, là où se tient le G7. L'homme est considéré comme un activiste de l'ultra-gauche. Corinne Diacre révèle sa première liste post-Coupe du Monde. La sélectionneuse de l'équipe de France appelle 19 des 23 participantes au Mondial.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec un plateau de journalistes ce soir, Éric Decouty, Yannick Halimi aujourd'hui en France Le Parisien, Michel Soulet de Politis et Jean-Jérôme Bertolus de France Info. On évoquait ce G7 qui se prépare et cette journée intense de discussion pour Emmanuel Macron aujourd'hui avec donc trois chefs de gouvernement qui ont été reçus ou sont en train de l'être, en l'occurrence pour le chef du gouvernement indien. Éric Decouty, vous vouliez rajouter quelque chose séquence?
Ce que disait Jean-Jérôme, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que le G7 tel qu'il a été créé par Valéry Giscard d'Estaing en 1975, c'était une collaboration entre les pays. Là, on a un groupe qui fonctionne de façon très égoïste. C'est des gens qui ont d'abord une préoccupation nationale et chacun une préoccupation nationale. Et il est de bon ton de dire que le G7 ne sert à rien, ce qui est en l'état vrai, mais d'abord pour cette raison-là. Mmh. C'est parce que chaque pays, au lieu de fonctionner en groupe, fonctionne d'abord en voyant ses intérêts personnels, avec ce nationalisme. C'est ce qui a porté Trump. Alors que moi, je vais peut-être aller à contre-courant, mais je pense que cette association de pays occidentaux, puissants, riches, pourrait avoir un intérêt si justement il y avait une vision collective. Et on pourrait même imaginer que ces gens-là repensent un modèle de développement économique
Oui, mais on sait par exemple que Donald Trump, il vient ici aussi dans la perspective de sa réélection. Oui, mais justement, c'est son aura dans son pays.
Quand vous regardez chacun des groupes, c'est de toute façon, c'est caduque parce que chacun va défendre ses intérêts particuliers. C'est tout sauf un syndicat, pour le coup. C'est une coalition de gens qui fonctionnent avec le nationalisme.
Jeannie Calimi. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vient de dire Eric. Je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Jean-Jérôme, où il y a, au contraire, au moins deux camps. Un incarné par Donald Trump, par peut-être également l'Italie, et l'autre incarné par l'Allemagne et par la France notamment. Au-delà des intérêts particuliers, des intérêts nationaux, des intérêts personnels au regard des carrières politiques et nationales des uns et des autres, il y a quand même deux visions du monde totalement différentes. Il y a quand même des pays comme notamment Donald Trump et les États-Unis qui défendent de plus en plus une vision très protectionniste et très nationaliste, America First, alors que en face, il y a des gens comme Emmanuel Macron, encore une fois, ou comme Angela Merkel, qui défendent une vision multilatérale du monde.
Au milieu ouverte
sur le monde. Donc, c'est quand même pas tous ce G7. Il ne faut pas mettre tous ces chefs d'État au même niveau. Loin de là, il y a des bras de fer et des bras de fer qui dépassent même les relations économiques, qui deviennent très politiques, voire encore plus élevés que ça. Donc, c'est vraiment une arène, une agora qui frôle le tragique. Tout le monde, oui. Il y a des guerres économiques, il y a des guerres...
Alors justement, dans ce contexte-là que vous décrivez,
des guerres culturelles,
Jeannie Calimi,
et des guerres politiques.
Comment on peut regarder la réception aujourd'hui de Boris Johnson à l'Élysée, dont on sait quand même qu'il est là pour trouver un accord ou pas d'ailleurs, mais enfin acter le Brexit, et dont on sait aussi que Trump lui fait les yeux doux pour un axe Trump-Johnson et accord États-Unis-Royaume-Uni. Là aussi, on est quand même dans une recomposition.
Avant cette réunion du G7, c'était quand même la première sortie de Boris Johnson ces jours-ci.
Oui, hier chez Angela Merkel et aujourd'hui
exactement.
À l'Élysée.
Et donc, ces dirigeants européens, puisque la Grande-Bretagne est toujours dans l'Union européenne, le Royaume-Uni il est toujours, ne se connaissent pas jusqu'ici. Emmanuel Macron ne connaissait pas Boris Johnson, et avant cette réunion où ils vont se retrouver à plusieurs, il avait sans doute besoin de faire le point et de connaître le bonhomme. Ça, c'est déjà un premier point, puisque les discussions partent quand même de là. Ensuite, il y a la question, effectivement, de comment régler le Brexit, puisqu'une date limite a été fixée au 31 octobre. Et là, on voit que Emmanuel Macron continue à être sur une ligne dure.
Une ligne assez ferme.
Sans doute plus dure que Angela Merkel, puisqu'elle a corrigé dans la journée ses propos en disant que c'était pas les 30 jours qui devaient être mis à profit, mais on a jusqu'au 31 octobre, ce qui fait le double.
Oui, parce que donc elle avait dit hier soir que on avait cru comprendre qu'elle avait dit un accord en 30 jours, donc en un mois, quoi, en gros. Hein.
Et donc il y avait besoin de se rencontrer. Bon, on voit bien que là, à la fois Boris Johnson est dans une sorte de poker menteur, il fait la tournée pour essayer de voir, de reporter la responsabilité sur l'extérieur de son échec. Il profite de la dureté de ce qui lui est dit en face pour dire, voyez, c'est pas de ma faute.
S'il n'y a pas d'accord, c'est pas de ma faute.
Ça sera la faute de l'Allemagne. Et en l'occurrence, là, ça sera plutôt la faute des Français. Ce qui est
le plus dur
un
de la
classique
bande.
Des Anglais.
Emmanuel Macron s'est présenté comme
bande,
étant le plus dur de la bande. On aimerait savoir qui est la bande.
Je toujours du vocabulaire d'Emmanuel Macron, parce que bande, je savais pas que des chefs d'État, j'avais jamais entendu parler d'une bande de chefs d'État. On parle de bandes d'autres choses.
Des propos tenus par Boris Johnson ou par les Brexiteurs, c'est pour ça. C'est pas.
C'était une réponse, alors, peut-être.
Des propos tenus par, entre guillemets, ses adversaires.
Jean-Jérôme Bertolucci.
Vous vous souvenez que Emmanuel Macron, il a quelquefois des mots quand il dit, effectivement, face à la foule, ah, Manon, ce problème, c'est pas Bibi. Donc, il a toujours eu des mots comme ça, un petit peu, on va dire, qui tranchent ou qui retiennent l'attention.
Peut-être qu'ils viennent de son âge aussi.
Ou qui retiennent l'attention des journalistes finalement. C'est peut-être aussi pour ça un petit mot sur Boris Johnson et le Brexit. C'est clair que Boris Johnson joue en quelque sorte la politique du pire. Et que face à lui, Emmanuel Macron, c'est vrai, effectivement, a une politique de fermeté, sans doute plus importante que celle d'Angela Merkel. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, l'Europe est confrontée au Brexit, à la crise italienne et à une
presque une volonté, là également, hein, derrière cette crise, une volonté de Matteo Salvini d'une sécession aussi, hein, puisque si effectivement Matteo Salvini emporte en quelque sorte l'affaire en Italie, eh ben, il y aura un problème budgétaire et donc l'Italie sera mise au banc et ça pourrait provoquer une crise.
Justement, puisque vous évoquez l'Italie, le président Mattarella annonce un nouveau délai jusqu'à mardi pour former une majorité. Voilà, ça éclaire un peu.
Il y a les pays de l'Est également qui on le sait maintenant, depuis effectivement que l'Allemagne avait ouvert ses frontières aux réfugiés, en termes de valeurs également, s'éloignent du centre de l'Europe. Donc la position ferme de la France, c'est aussi pour dire il faut que l'Europe tienne, en quelque sorte, soit un petit peu rassemblée.
Oui. Éric Dupouty.
Il a fait quoi, Johnson, aujourd'hui, quand vous voyez? Il a fait de la politique, mais de la politique intérieure, en fait, hein, parce que il est fragile dans son pays, hein, il est pas élu, il va jouer son avenir dans les prochaines semaines. Il est venu dire, aujourd'hui, il a fait croire qu'il voulait un accord, mais il veut rien discuter, Boris Johnson, parce que c'est quoi qui est discutable? C'est la frontière irlandaise, et elle est indiscutable. On va pas entrer dans les détails ici, mais en tous les cas, ils sont allés. Et lui, il dit simplement, les 40 milliards aux Européens, asseyez-vous dessus, et la frontière irlandaise, il n'y a rien à négocier. Donc,
Et ce qu'il dit, simplement... Et après, il va dire, ce sera de la faute des autres.
C'est la stratégie classique, et qui est la stratégie de tous les nationalistes en Angleterre, mais aussi en Europe, y compris en France, en disant, c'est facile de sortir, mais vous voyez bien, on ne peut pas, parce que c'est les Européens, c'est les libéraux qui nous empêchent. Donc, il est venu tenir ce discours-là, et le discours de la fermeté, parce que le coin qu'il a essayé de mettre entre Merkel et Macron hier aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ils ont adopté, peu ou prou, la même position, Merkel et Macron.
Dans la journée,
réalignés en quelque sorte. Donc, il est venu dire aujourd'hui, il est venu jouer sa prochaine, son avenir politique. En tous les cas,
si je
dire, au 31
bien,
octobre, c'est ça ou rien.
Lui, il joue son avenir politique. Donald Trump, quand il va débarquer demain ou après-demain, il va aussi, durant ce G7, jouer sa carte parce qu'il est en campagne électorale. Donc, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Éric Dupouty, qu'on est quand même dans un sommet où il y a beaucoup de sommes d'intérêts particuliers. On va marquer une petite pause pour le rappel de l'info, et ensuite, Michel Soudé, on poursuit ce débat. On évoquera aussi, d'ailleurs, ce G7 qu'on nous annonce bunkérisé sous haute sécurité, avec quelques policiers qui grincent des dents et qui commencent à fatiguer. Pour l'instant, il est 20h20, l'info, Claire Flochel.
En Italie, Sergio Mattarella accorde plus de temps aux partis pour former un nouveau gouvernement. Il leur donne jusqu'à mardi. Le président italien est en train de s'exprimer après avoir passé 2 jours à consulter les chefs des 2 chambres du Parlement et les groupes politiques pour remplacer Giuseppe Conte, le premier ministre qui a quitté il y a 2 jours son poste. Une nouvelle mise en examen pour le président de la métropole lilloise dans l'affaire du grand stade de Lille. Damien Castellin est soupçonné d'avoir bénéficié pour 18 000 euros de pierres livrées via Eiffage, le constructeur du stade, pour une terrasse personnelle. L'attribution de ce marché lui a valu en 2017 une mise en examen, entre autres pour trafic d'influence passif. 48 heures après l'accident de la route près de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, la fillette de 18 mois abandonnée à l'hôpital par ses parents est morte. Elle se trouvait dans la voiture qui a violemment percuté un pont. Lundi soir, sa mère conduisait en état d'ébriété. Elle et son compagnon devraient donc être déférés demain matin en vue d'une mise en examen. Un important dispositif de sécurité mis en place pour la rencontre Strasbourg-Francfort. Le match de barrage aller de la Ligue Europa a été classé à haut risque par les autorités. Coup d'envoi dans 10 petites minutes à Strasbourg.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec Éric Dupouty, Jeannick Halimi, Michel Soudé et Jean-Jérôme Bertolus. Que des journalistes ce soir pour commenter cette actualité, mais des profils divers. Michel Soudé, Politis.
Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement...
Parler du G7, hein, pour ceux qui nous rejoignent.
Boris Johnson la volonté de donner une image à son électorat et en tous les cas aux Britanniques. Et c'est l'image qu'il a voulu donner, c'est celle du dur, intransigeant, faussement décontracté sans doute, un peu tel un bye boy qui n'est intimidé par rien. En témoigne la photo qui circule déjà pas mal, qui est prise par le pool de photographes, où dans le salon de l'Élysée face à Emmanuel Macron, il a un pied sur la table basse.
Ah oui, on a un président qui parle de bande et son hôte qui met le pied sur la table. Ça ne se fait pas normalement. Jeannick Halimi.
Oui, tout à fait. Non, je voulais juste rajouter à tout ce qui a été dit, c'est que on voit bien tout de même que au-delà ou en outre des intérêts nationaux des uns et des autres, c'est quand même des plaques tectoniques qui se jouent. Parce que derrière Donald Trump et ses appels du pied à Boris Johnson, plus que ça, pour qu'il quitte l'Union européenne, on voit bien que ce sont des blocs qui se reconstituent, avec des blocs nationalistes, populistes, prenant le protectionnisme ou alors...
Finalement, c'est peut-être pour ça qu'il veut le retour de Poutine. Alors, finalement, parce qu'il
fait partie de la... Oui, alors Poutine, moi je serais moins catégorique que Jean-Jérôme. Les relations Donald Trump-Poutine sont beaucoup plus perverses.
Quand on parle de nationalisme...
Vous avez raison, mais là, pour le coup, les intérêts de deux grandes puissances prennent aussi le pas sur deux nationalismes qui peuvent se retrouver sur des données économiques et culturelles. Mmh. Politiquement parlant et militairement parlant, ça reste quand même, on le voit d'ailleurs au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie, des ennemis, des adversaires, je veux parler de Trump et de Poutine. Mais on voit bien quand même qu'au centre de ce G7, c'est l'Europe, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Jérôme, c'est l'Europe qui est dans tout ça, parce que Donald Trump, avec la puissance qu'il a, ne fait rien pour stabiliser les choses. Et quand il tend des perches, enfin, incite, pousse, encourage le Brexit et M. Boris Johnson, c'est bien l'Europe qu'il a en ligne de mire. Et il faut bien voir que c'est tout de même la fragilité et le devenir de l'Europe qui est derrière tout ça, cette Europe qui peut totalement exploser, imploser ou se fissurer de l'intérieur, avec des États qui, pour le moment, comme l'Italie, la Pologne ou surtout la Hongrie d'Orban, essaient de changer l'Europe de l'intérieur.
De l'intérieur aussi. Un tout petit mot en changeant de sujet.
Conclusion sur le G7, justement, et je reviens à ce que vous disiez sur les planètes alignées, Nicolas. Je vous donne raison, finalement, parce que en fait,
25 minutes après.
C'est vrai que nous, les journalistes, on a la mémoire du présent, moins celle du passé. Il faut se souvenir que ces derniers mois, l'action d'Emmanuel Macron était essentiellement franco-française, était essentiellement gilet jaune, hormis quelques conseils européens liés à la grave question des réfugiés. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que pour lui, c'est aussi l'occasion de revenir sur la scène internationale et de reprendre à bras-le-corps tous les sujets dont on vient de parler.
Et la scène européenne.
Et justement, ce G7, on nous dit, et on l'entend déjà, cette critique montée, c'est les puissances bunkérisées, enfermées. Les ONG critiquent, le contre-G7 dénonce aussi cette bunkérisation, cette haute surveillance, ces moyens de sécurité mis en place. Et on a entendu aussi la voix des syndicats de policiers qui commencent à dire que, et qui voudraient profiter de ce G7 pour dire on n'en peut plus, on est fatigué. Je passe pas du coq à l'âne parce que les sujets sont finalement liés. On a vécu des gilets jaunes, on a vécu évidemment une menace attentat dans notre pays. Et là, on demande encore, avec ce G7 à Biarritz, aux forces de l'ordre de se mobiliser en grand nombre, 13 000 policiers et gendarmes. Vous comprenez qu'ils puissent dire stop, on n'en peut plus, Éric Le Coutil.
Mais vous savez, là, ils se font entendre un peu plus fort, mais ça fait très longtemps que le malaise policier est grandissant. Ça fait très très longtemps.
46
suicides cette année. Mais il y a un malaise, il y a des heures supplémentaires, des centaines de milliers d'heures supplémentaires qui accablent les policiers. Ils sont épuisés, essorés, vraiment. Mm-hmm. C'est un malaise qui date pas seulement d'Emmanuel Macron. Alors il y a eu la séquence des attentats, il y a eu les gilets jaunes, etc. On sait tout ça. Mais c'est un malaise qui date de très longtemps et qu'on a entretenu d'une certaine façon, qu'on a refusé de traiter.
On a continué de tirer
aujourd'hui
sur la corde aussi.
Ces gens-là sont à bout, ils le font entendre, et je suis même surpris que ça ne soit pas arrivé plus tôt. On a une crise majeure qui est en train de se nouer. On a un ministre de l'Intérieur qui a aussi laissé pourrir, parce que, d'un mot, il y avait une grande réforme de la police nationale qui devait être engagée. Y compris cet été, il y avait un livre jaune qui devait être... Que nenni, il se passe rien. Il ne voit rien venir. Il y a eu un rapport qui est passé assez inaperçu au début de l'été, rédigé par Jean-Michel Fauvergue et un autre parlementaire, qui était apocalyptique. C'est des gens qui travaillent dans des conditions... Alors, il est de bon ton aujourd'hui de leur taper dessus, au propre mot figuré, de dire que les violences policières, c'est un autre sujet. Mais la réalité des policiers de terrain et des policiers tout court, elle est accablante. Je vous invite à aller regarder les grandes lignes de ce rapport. Ça révèle, ça montre à la population, ça devrait prendre conscience de l'état déplorable dans lequel la population et surtout au gouvernement.
Dans sa rencontre avec les journalistes hier de la presse présidentielle, le président Macron s'est dit très vigilant sur l'état de fatigue des forces de l'ordre, mais ils en demandent plus qu'une simple vigilance.
Oui, il a parlé effectivement de l'état de fatigue des forces de l'ordre, mais il a aussi parlé des violences perpétrées tant par les gilets jaunes que par les policiers qui
devaient
aussi...
Comme s'ils les mettaient dos à dos. comme s'il les renvoyait sur le même
oui,
plan.
Oui, bah parce qu'on a beaucoup à gauche et puis parmi les manifestants, enfin beaucoup dans l'opinion publique, faisaient le procès au gouvernement et à l'exécutif, effectivement, de défendre systématiquement, notamment bien sûr à l'occasion des Gilets jaunes, de défendre systématiquement
les policiers. Et du coup, là, ils peuvent se sentir encore un peu attaqués.
Bon, enfin voilà.
Des aveux, peut-être.
Il faut rappeler ça. Mais pour compléter, si je puis me permettre, ce que disait Éric Descoutis, juste pour donner quelques chiffres, effectivement, dans la police depuis 10 ans, donc effectivement la crise n'est pas nouvelle, il y a 22 millions d'heures supplémentaires qui ont été effectuées, dont certaines pas indemnisées, et le coût que représenterait l'indemnisation de ces heures supplémentaires, a été avancé par M. Castaner récemment, serait de 275 millions d'euros, encore une fois, sur ces 10 dernières années, ça remonte pas à la crise des Gilets jaunes ou au terrorisme, mais se pose quand même au-delà de tout ce qui est mis en place de façon préventive, ce qui a été mis en place depuis les Gilets jaunes, de cellules psychologiques, etc., de numéros verts, etc., etc., se posent quand même deux autres problèmes. Donc, ce dont je viens de parler, la question des horaires, qu'en faire, et puis également la disposition d'armes. Vous savez, il y a énormément de suicides qui sont perpétrés avec les armes de service. Or, les horaires de service, il y a eu des jurisprudences différentes sous M. Cazeneuve quand il était ministre de l'Intérieur qui refusait l'usage et l'utilisation, même la mise à la disposition des armes de la part des policiers hors service. Et depuis les attentats, et notamment l'assassinat du couple, vous vous souvenez, à Magnanville de policiers, pendant qu'ils étaient hors service, cette mise à la disposition des armes pour les policiers hors service est de nouveau toléré. Donc, vous voyez, il y a ces deux problèmes-là de fond.
Yannick, c'est relativement marginal le fait qu'ils aient des suicides, parce que le malaise de la police, c'est plus profond. Alors, peut-être que ça pourrait éviter.
On va devoir s'arrêter.
C'est le symptôme de ce malaise. Je ne dis pas que c'est la cause du malaise.
On s'arrête parce que c'est déjà l'heure des infos et de la météo. A tout de suite.
France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing. Le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Avec Jean-Pierre Rameau.
L'anticyclone des Açores va s'installer durablement au-dessus de notre pays. Demain, prévoyez un excellent ensoleillement après dissipation rapide des quelques bancs de brouillard présents au lever du jour du côté des Côtes d'Armor, des Landes et du Val-de-Saône. Le ciel sera une nouvelle fois nuageux sur les Alpes du Sud et toujours au-dessus de la montagne Corse. Des orages vont se développer après la mi-journée sur les reliefs. Les températures en fin de nuit seront comprises entre 8 et 15 degrés, comptez 18 à 24 degrés autour de la Grande Bleue. Les maximales afficheront des valeurs estimées est comprise entre 25 et 34 degrés du nord au sud et ces températures vont encore grimper ce week-end. La moyenne des maximales va dépasser la barre des 30 degrés aussi bien dans le nord que dans le sud.
Il est 20h30, merci d'écouter France Info.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
C'est toute l'info avec Emmanuel Langlois.
Le suspense continue en Italie, 48 heures après l'explosion en vol du gouvernement populiste. Après les avoir consultés une première fois, Sergio Mattarella laisse jusqu'à mardi prochain au parti pour essayer de former un nouveau gouvernement. Ces consultations, dit le président italien, reprendront donc la semaine prochaine pour prendre, dit-il, les décisions nécessaires. Emmanuel Macron reçoit lui demain à l'Elysée des représentants de la société civile, notamment d'entreprises, à la veille de l'ouverture du G7. Plusieurs ONG annoncent qu'elles boycotteront le sommet de Biarritz, estimant être laissées à l'écart. L'Élysée ce soir leur accorde l'accès à l'espace presse qu'elle réclamait, qui regroupe plusieurs milliers de journalistes. On ne connaît pas leur réponse. 30 migrants iraniens et irakiens, dont 10 enfants et un bébé, interceptés par les autorités maritimes à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest du Touquet. Ils se trouvaient à bord de deux embarcations semi-rigides et tentaient de traverser la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne. Ce sont deux bateaux de pêche qui les ont signalés en fin de matinée. Une enquête ouverte après la chute d'une adolescente de 17 ans du deuxième étage d'un immeuble de Saint-Germain-en-Laye dans des circonstances suspectes. Ça s'est passé mardi matin. Trois hommes ont été placés en garde à vue puis relâchés. Les enquêteurs sont confrontés à un dossier difficile parce que les circonstances de la chute sont très floues en fait. Clémentine Vergniaud.
L'adolescente a-t-elle sauté par la fenêtre ou a-t-elle été poussée? Impossible pour les enquêteurs de répondre à cette question pour l'instant, parce que la jeune fille a tenu des propos totalement incohérents pendant son audition. Elle affirme qu'elle avait rendez-vous lundi soir avec un homme connu sur un site de rencontre, mais quand elle est arrivée, ils étaient plusieurs, tout le monde passe la nuit dans cet appartement, et c'est le mardi matin qu'elle chute du deuxième étage. Elle explique dans un premier temps avoir été séquestrée, elle aurait donc sauté pour échapper à ses ravisseurs, mais lors de son audition mercredi, elle n'est plus aussi claire. Les trois hommes interpellés, eux, affirment qu'ils étaient là pour des relations sexuelles tarifées et qu'elle était au courant qu'il y aurait plusieurs hommes. La personnalité de la jeune fille interroge. Une jeune femme à la dérive, explique le parquet, qui était en fugue au moment des faits, qui va de placement en placement. Elle est connue des services de police pour de la petite délinquance, tout comme les trois suspects qui avaient été interpellés.
C'était Clémentine Vergniaud. Un maire peut-il se substituer à l'État pour protéger la santé de ses habitants? Question posée aujourd'hui à Rennes devant la justice par le maire écologiste de Langouette en Ille-et-Vilaine. En mai dernier, il avait interdit l'usage de pesticides à moins de 150 mètres des habitations par arrêté. Mais la préfecture réclame sa suspension, estimant que ce n'était pas son rôle. 700 à 1000 sympathisants étaient venus le soutenir devant le tribunal de Rennes qui retiendra sa décision la semaine prochaine. Enfin, c'est un véritable coup de tonnerre. Christian Coleman, l'homme le plus rapide de la planète depuis la retraite du Usain Bolt, pourrait rater les mondiaux de Doha fin septembre au Qatar. L'athlète américain a en effet manqué à trois reprises à ses obligations de localisation pour des contrôles antidopage, alors qu'il est le grand favori pour le titre sur la distance reine du 100 mètres.
20h33, c'était Emmanuel Langlois.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec nous ce soir, Éric Decouty, Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France, Michel Soudet de Politis et Jean-Jérôme Bertolus de France Info, chef du service politique. C'est l'heure de la rentrée. On va en parler de la rentrée politique dans un instant. Mais avant cette pause pour le point sur l'actu, nous évoquions le malaise des policiers qui veulent profiter, en tout cas les syndicats de police du G7, pour se faire entendre en disant qu'ils sont épuisés et que cette manifestation, eh bien, ça les mobilise encore une fois en nombre. Bonjour Jean-Jérôme Bertolus, vous voulez dire
un mot, c'est vrai, Éric Decouty a évoqué la loi de programmation de la sécurité intérieure promise par l'exécutif, donc Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Vous savez, on a une loi de programmation militaire en France, récurrente, qui permet véritablement de poser la question des moyens militaires sur la table, à travers des livres blancs, mais à travers aussi des vives discussions entre les élus. Donc là, ça devrait être un moment important. C'est vrai qu'on n'a pas vu le livre blanc annoncé pour cet été, mais pourtant, c'est absolument essentiel, cette loi de programmation, parce que d'abord, les Français ont montré leur attachement au service public à travers la crise des Gilets jaunes. Que la sécurité reste un besoin, la sécurité intérieure reste un besoin fondamental pour les Français. Et juste d'un mot, depuis les débuts de la Ve République, les budgets alloués à la police, à la justice, à la défense, c'est-à-dire vraiment le cœur de l'État, ont été divisés par deux. Donc, effectivement, l'État a aujourd'hui du mal à assurer, au moins budgétairement, ce qui est absolument fondamental.
Par deux depuis
les débuts de la Ve République.
Avec, en plus, une population qui n'a cessé de croître dans le
pays.
C'est
en pourcentage du PIB. Donc, le PIB a aussi augmenté. D'accord. Mais donc, effectivement, ça pose un problème. Et effectivement, l'état de la police est aujourd'hui préoccupant. Le rapport auquel était fait allusion tout à l'heure a été mené par Jean-Michel Fauvergue. Rappelons-le, c'est l'ex-patron du RAID et aujourd'hui c'est un député de la majorité. Donc c'est un député de la majorité qui, en plein été, a tiré la sonnette d'alarme sur le parc immobilier, sur le parc automobile et sur, on va dire, les moyens de la police.
Ah, pas sur le nombre d'effectifs.
Peut-être aussi sur le suivi médical. Et aussi sur le suivi médical.
Michel Soudet n'a pas entendu sur ce sujet, mais c'est vrai qu'on entend partout en France des policiers nous dire qu'ils n'ont plus de quoi mettre des pneus neige, par exemple, dans les villes alpines pour aller pour leur voiture l'hiver.
Oui, il y a effectivement
des choses comme ça.
Il y a ces problèmes de moyens matériels, mais quand ils disent être épuisé, travailler trop ou autre, il y a aussi un problème qui là est politique, c'est que quand vous gouvernez en suscitant des crises politiques à répétition qui mettent du monde dans la rue et que la seule réponse que vous apportez, c'est solliciter les forces de l'ordre
avec un maintien de l'ordre toujours
pour encadrer les manifestations, les réprimer. J'insiste parce que c'est notre ligne et c'est ce qu'on a pu constater ces derniers mois. Effectivement, vous surdemandez aux policiers d'intervenir et de travailler plus qu'ils ne peuvent. Et en même temps, vous les mettez aussi dans des conditions qui génèrent qui contribuent à générer de la violence.
Qui génèrent du stress aussi pour eux.
De leur côté,
eux.
Et du stress pour eux aussi.
Mmh. Avec des blessures.
Les attentats, c'est pas le gouvernement qui a créé.
Je parlais pas des attentats.
On ne date pas des gilets jaunes. Tout de même. Mais c'est vrai depuis plusieurs quinquennats.
Au moment des lois El Khomri, il y avait aussi des compagnies de CRS qui régulièrement n'étaient pas présentes parce que les gars se mettaient en arrêt maladie.
Même si la population soutient majoritairement les...
Non, mais comme ça a été dit, le malaise, il est profond, il n'a pas été la responsabilité des gouvernements successifs, ça a été de ne pas traiter ce malaise. Il est là. Donc, oui, il y a eu des crises, vous en pensez ce que vous voulez, mais on peut pas résumer, réduire le malaise de profond de la police à la crise des gilets jaunes. Ce serait passer justement à côté du problème ou à la responsabilité du gouvernement. Jean-Jérôme l'a très bien dit, très précisément, sur cette crise majeure qu'on a refusé de traiter, qu'on n'a pas voulu voir. Et ça, Nicolas Sarkozy porte aussi sa responsabilité. Les gouvernements successifs portent leur responsabilité sur cette question.
Nicolas Sarkozy a diminué les effectifs, effectivement.
En tout cas, il y a qu'une seule chose, et je pense que tout le monde sera d'accord autour de la table, c'est que l'État ne peut pas être contre sa police. Donc à un moment, si effectivement crise il doit y avoir, en dehors de malheureusement ces 47 suicides, donc qui sont un symptôme de cette crise, un symptôme dramatique, si crise il doit y avoir, il serait compliqué que l'État cède, on va dire, d'une manière désordonnée. Il faut repenser les moyens alloués à la police.
Jeannick Calmy, pour terminer sur ce sujet.
Écoutez, je peux être que d'accord. Le projet de loi de finances qui vient, tous les ministères régaliens dont on parlait, justice et police et armée, sont sanctuarisés, ne voient pas de baisse de crédit. Et bien sûr qu'il faut défendre sa police, c'est évident. C'est le bras armé, entre guillemets, qui fait appliquer la loi. Mais il faut aussi tout de même, il faut le répéter dans le contexte tout de même de défiance dont parlait Michel Soudé, alors que moi je fais remonter bien évidemment à avant ces deux dernières années. Mais ce climat délétère dans lequel on vit, il ne faudrait pas non plus que par principe, parce que c'est une mission régalienne, l'État et l'exécutif défendent systématiquement et par principe des policiers.
Ce que disent les associations, ce que disent beaucoup de
partis politiques, effectivement de l'opposition également, c'est que les enquêtes internes, voire les enquêtes préliminaires menées à l'égard des policiers pendant la crise des Gilets jaunes, pour le moment, s'entassent sur le bureau des procureurs et il n'y a rien encore qui soit jugé. Et ça, sans vouloir évidemment déstabiliser la police en tant que telle, il y a des cases individuelles qui doivent être traitées également par la justice, et ça l'exécutif ne peut pas en faire l'économie.
Allez, on va parler de politique juste après le rappel de l'info. Il est 20h40, Claire Flochel.
Le bateau militaire envoyé par Madrid maintient le cap vers l'île italienne de Lampedusa. Il va récupérer 15 migrants secourus par le navire humanitaire Open Arms, 15 personnes que l'Espagne s'est engagée à accueillir. L'Open Arms est bloqué ce soir par les gardes-côtes, notamment pour de graves anomalies relatives à la sécurité de la navigation. Le chef de l'ONU se dit ce soir profondément préoccupé par les incendies en Amazonie. Le nombre de feux dans la plus grande forêt tropicale au monde a augmenté de 83% entre janvier et août par rapport à la même période l'an dernier. Antonio Guterres réclame que l'Amazonie soit protégée. Nous ne pouvons accepter davantage de dégâts sur une source majeure d'oxygène et de biodiversité, dit le secrétaire général des Nations Unies. Après Berlin, avant le G7 de Biarritz, Boris Johnson à l'Elysée aujourd'hui. Au menu des discussions, le Brexit. Alors que le Premier ministre britannique veut que son pays quitte l'Union européenne le 31 octobre avec ou sans accord, le président français s'est montré ferme sur l'Irlande et le marché unique notamment. Ce soir, l'Elysée assure qu'Emmanuel Macron et Boris Johnson souhaitent que les discussions sur le Brexit se poursuivent d'ici la fin septembre. L'enquête visant le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, classée sans suite, annonce du parquet national financier. Depuis un an, les enquêteurs travaillaient sur un éventuel conflit d'intérêts entre ses anciens postes dans la fonction publique et ses liens familiaux avec l'armateur MSC.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir, Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France, Michel Soudé de Politis, Jean-Jérôme Bertolus de France Info et Éric de Couty. C'est donc l'heure de la rentrée aussi pour l'opposition, la fin des vacances pour la gauche, par exemple, avec Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise qui organisent tour à tour, en même temps, au même endroit, à Toulouse, leurs universités d'été. Évidemment, c'est une rentrée qui sera marquée par les municipales qui vont arriver très vite, hein. C'est au mois de mars, mais les campagnes vont vite démarrer. Commençons, si vous êtes d'accord, par les écologistes et cet objectif de Yannick Jadot de faire fructifier son bon score aux européennes et de décrocher des villes, plusieurs villes. Est-ce que c'est réaliste déjà, Yannick Halimi? Vous avez fait une belle enquête aujourd'hui dans le Parisien aujourd'hui.
Oui, effectivement, et au-delà de plusieurs villes, mais vous avez raison, hein, Nicolas, c'est aussi des grandes villes que cible.
Paris déjà, hein. Clairement, il
dont
a dit Paris.
Paris, dont ils veulent, c'était Monsieur Cormand qui est tout, jusqu'à novembre prochain, jusqu'au prochain congrès, qui est le leader, le numéro un du parti des écologistes, et confirmé par Yannick Jadot, qui a donc remporté au nom des écologistes les européennes, avec un bon score hein, de 13,4 de mémoire, un peu moins de 14%. Bref, oui, c'est à leur portée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mouvements de fond, en tout cas qui sont apparus aux européennes.
Qu'est-ce qui est à leur portée, qu'on comprenne bien ? Prendre Paris ou prendre des villes ?
Non, prendre
parce
des
Paris,
villes.
Ça paraît
prendre
quand même
Paris,
un peu...
c'est compliqué.
On est
non,
d'accord.
Non, je suis sur votre question initiale qui est la conquête de grandes villes.
Il faut
rappeler que pour le moment, ils ont Grenoble comme grande ville. Ils ont quelques villes comme Bègles. Ils ont quelques villes comme ça. Ils ont 13 villes, je crois, environ, enfin un peu plus d'une dizaine de villes au-dessus de 9000 habitants. Pour le moment, on peut pas dire qu'ils soient
enfin,
à la tête d'un grand réseau.
Par
contre, ils ont beaucoup de conseillers municipaux, notamment, ou même de conseillers municipaux, je veux dire, oui, d'adjoints, également, notamment dans des villes socialistes et dans des grandes villes comme Nantes ou Rennes.
Et cette conquête,
elle passe par quelle
stratégie ? Parce qu'on sent que Yannick Jadot a envie d'ouvrir, de marquer des alliances, d'aller peut-être au-delà du cadre traditionnel de la gauche. Or, les écologistes, les militants, la base, elle est très ancrée à gauche, Jean-Jérôme Bertolus.
Oui, mais ce qui est vrai, c'est que les villes que vous citez sont quand même des villes socialistes. C'est-à-dire Nantes, Rennes, éventuellement Paris. Ce sont des bastions municipales socialistes. Et qu'est-ce que dit en fait Yannick Jadot ? Eh bien, c'est les écolos doivent en quelque sorte participer à l'assaut de ces bastions. Donc déjà, ça
donc
fixe...
On part en conquête donc, contre la gauche.
Donc déjà, ça fixe une
ligne. C'est
le modèle
grenoblois d'il y a 6 ans, en fait.
En fait, la ligne de Yannick Jadot, elle est assez simple. C'est les Verts sont pas de gauche, ils sont pragmatiques. C'est presque les Verts à l'allemande. En fait, ils voient le succès des Verts allemands. Ils se disent, c'est là où l'écologie peut, en quelque sorte, gagner, parce que l'écologie, ça traverse tout le monde, c'est plus une question. Et puis, ils estiment, contrairement peut-être à d'autres membres, et sûrement même contrairement à d'autres membres d'écologie d'Europe Écologie Les Verts, il estime que la gauche s'est dépassée, voilà, que le PS ne veut plus dire grand-chose.
Je suis pas sûr qu'en bas, la base militante...
Et même, je suis pas sûr que ça soit l'avis d'Éric Piolle et d'autres.
Moi, j'ai lu la remarquable interview de Yannick Halimi, enfin, les questions et pas les réponses, et j'ai trouvé que... Décidément, ce soir, je me trompe sur les mots. J'ai trouvé qu'il avait un peu le melon. Parce que cette idée qui est de dire, bah, de toute façon, oui, on peut reconstituer la social-démocratie pour la vieille social-démocratie et qui sera constituée autour des Verts, mais de toute façon, je ne discuterai avec personne, ils viendront naturellement à moi.
Qui même me suivent, on discute pas.
Il faut pas oublier, alors, il a fait un bon score, les Verts ont fait un bon score, et tant mieux pour eux, mais 13,5%, 200 000 voix de plus que Daniel Cohn-Bendit.
6% pour le PS
donc,
et les Insoumis.
D'accord, mais 13,5%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a probablement quelque chose qui peut se faire au centre, en mettant l'écologie au centre, mais à condition d'avoir des passerelles avec les socialistes, avec peut-être pas avec les partis, mais au moins des passerelles avec les électeurs. Et là, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression, c'est pas nouveau dans cette interview, mais ce qu'on entend, disant de toute façon, nous on est là, on est le centre du monde, d'une autre gauche, centre-gauche, venez à moi, de toute façon, ils viendront à moi. Et je trouve ça un peu casse-gueule.
Justement, l'exemple grenoblois nous montre quand même qu'Éric Piolle, il dirige avec des alliances de gauche, et notamment les mélenchonistes. C'était pas tout seul derrière lui, Yannick Halimi. Michel Soudé.
Mais en fait, il y a une différence effectivement entre Yannick Jadot et le reste, David Cormand et une grande partie du parti. Et on l'a vu encore dans le discours d'ouverture de David Cormand aux journées d'Europe Écologie Les Verts, où Certes, il affirme que notre force, c'est que nous remplaçons la promesse social-démocrate. Donc là, on voit bien la stratégie, c'est effectivement de prendre la place des vieux appareils sociaux-démocrates et du Parti Socialiste et la conquête des villes que celui-ci dirige. Mais il dit que nous ne sommes pas sortis de la tutelle social-démocrate pour nous perdre dans le marais centriste. Ça, c'est directement adressé à Yannick Jadot. Il y a une critique sur un appel à la modestie.
Oui, parce qu'on en a déjà vu d'autres, des listes écologistes puissantes aux européennes, et puis que ça fait pchit au scrutin d'après.
Non seulement des listes écologiques puissantes, mais on a vu aussi à droite des Pasqua, Villiers battent leur camp et sans rien faire derrière.
Ce scrutin pousse au défouloir aussi.
Les élections européennes n'ont jamais été un scrutin structurant pour la suite. Et là, effectivement, il faut faire attention.
Moi, j'aurais plusieurs choses à dire. Alors, effectivement, on prend toujours l'exemple de 2009, où ça avait été le score historique de 16% avec Daniel Cohn-Bendit, et puis après, tout ça est retombé pratiquement dans les oubliettes de l'histoire et de la politique, pratiquement, sauf qu'il s'est passé 10 ans et que le contexte politique est radicalement différent.
L'urgence climatique touche plus.
Alors, il y a effectivement l'urgence climatique et puis la mobilisation de la jeunesse, mais il n'y a pas que ça. Il y a 10 ans, en 2009, il y avait, qu'on veuille ou non, un parti socialiste qui était fort, qui était encore très très fort même, et qui allait gagner les élections 3 ans plus tard, et pas n'importe quelle, la présidentielle et les législatives.
Mais qui, aux élections européennes de 2009, avait fait à peine plus que Daniel Cohn-Bendit.
Oui, d'accord, mais la force politique du parti socialiste était là. Alors, sans vouloir injurier les socialistes, ils peuvent toujours renaître, non pas de leurs cendres, mais de leur cendre encore chaude, si vous voulez. Mais la force du Parti Socialiste, et même la doctrine et le corpus idéologique, est quand même considérablement affaibli. On va pas revenir là-dessus. Donc, Yannick Jadot et les Verts en général, y compris David Cormann, estiment qu'il n'y a plus de vrai, véritablement de clivage droite-gauche, qu'il y a 3 pôles. Un pôle qui devrait et qui doit structurer, et qui va de plus en plus structurer la scène politique française, qui sont le pôle nationaliste, le pôle libéral avec la République En Marche notamment et certains centristes, et le pôle écologique, les pôles écologistes, pardon. Donc, à partir de là, on peut estimer qu'il n'y a ni droite ni gauche et que Yannick Jadot peut aller chasser
où il veut.
Sauf que, Yannick Jadot, qui pouvait avoir peut-être une tentation du centre, là, a bien remis les pendules à l'heure. Comme David Cormann et comme une bonne partie, que vous aviez raison Nicolas, de la base écologiste qui reste quand même de gauche, c'est que il partait seul, effectivement, au premier tour, attention, des municipales pour se compter, et qu'au deuxième tour, voire au troisième pour Paris, il y aurait bien évidemment des alliances, mais jusqu'où ? Jusqu'à La République En Marche, non comprise. Donc Yannick Jadot comme David Cormann se situent bien à gauche, et là, leur stratégie, ce n'est pas aller chasser un peu partout. Maintenant, c'est frontal et c'est direct. Ça va être contre la France Insoumise,
c'est-à-dire
qui est fragilisée.
Être l'opposition autre que le Rassemblement National à la majorité.
C'est-à-dire que ça va être,
vous ne voulez ni la majorité
guerre,
ni le Rassemblement National, c'est
oui,
nous.
Mais ça va être aussi une guerre frontale avec le Parti Socialiste qui détient la plupart des grandes villes dont vous parliez, et puis avec un électorat, dans des grandes villes, les dernières européennes l'ont montré, à Paris ou à Lyon par exemple, qui votaient socialistes jusqu'à présent et qui ont voté massivement et majoritairement pour le parti écologiste. Donc c'est bien une guerre ouverte entre les écolos et le PS, qui déjà était plus que dans les limbes aux européennes, mais qui va se renforcer au fur et à mesure des mois jusqu'à la présidentielle.
Et avec tout ça, où se trouve Jean-Luc Mélenchon ? Eh bien, il n'est pas en France, malgré l'université de son parti, à Toulouse également. Et on en parle juste après le rappel de l'info. 20h50, Claire Flochel.
Le président italien annonce ce soir qu'il accorde plus de temps aux chefs des différents partis politiques pour qu'ils tentent de former une nouvelle coalition gouvernementale. Sergio Mattarella précise qu'il organisera de nouvelles consultations avec les dirigeants de ses partis à partir de mardi prochain. L'Italie est en pleine crise politique. Le Premier ministre a démissionné avant-hier de ses fonctions. Les ONG du réseau Action Climat ont annoncé leur boycott du G7 et même de la rencontre demain avec Emmanuel Macron. Elles dénonçaient les conditions d'accès trop restrictives. Finalement, l'Élysée fait marche arrière et accède aux demandes des ONG qui auront accès aux journalistes lors du G7. Par conséquent, les ONG discutent ensemble pour savoir s'il faut ou non maintenir le boycott. Un fourgon arrêté sur l'autoroute A9 à hauteur de Marguerite dans le Gard. Il transportait 30 ressortissants indiens et pakistanais. Information de nos confrères de France Bleu Gard Lozère. Les deux chauffeurs des ressortissants roumains ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de traite d'êtres humains et de séjour irrégulier. En football, Strasbourg est face à Francfort depuis 20 minutes. Match de barrage aller pour la Ligue Europa. Pour l'instant, toujours 0-0.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
On pourrait faire une émission de 2 heures ce soir, tellement que vous avez des choses à dire sur l'actualité politique. Je voulais qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Jérôme Bertolus me dit encore un mot sur les écolos, s'il vous plaît.
Alors, comme c'est vous, je ne peux pas vous refuser. L'avez dit, Nicolas, faut compter avec les militants d'Europe Écologie Les Verts, qui sont certainement peut-être plus à gauche, effectivement, que Yannick Jadot. Ils sont seulement 6000, hein, c'est un parti, mais enfin, c'est un petit parti. Mais il faut surtout compter avec les électeurs.
Oui, mais c'est ce que et je voulais dire quand je parlais de la base. C'est aussi des électeurs qui viennent de la gauche, les électeurs.
Oui, alors, ils viennent de la gauche, mais en fait, sur les questions environnementales, c'est là où les électeurs sont les plus fluides, les plus mouvants. Ça n'avait pas échappé d'ailleurs au stratège de La République En Marche. Ça veut dire que l'électorat se déplace beaucoup plus facilement sur les questions environnementales. Donc, est-ce que Europe Écologie Les Verts doit être plutôt très à gauche, un peu à gauche, doit tendre la main aux maires d'hiver droite s'ils font des cantines bio ? Effectivement, tout ça va se régler électoralement et il est difficile pour Europe Écologie Les Verts d'avoir un électorat captif aujourd'hui.
Mais ça va se décider électoralement, dites-vous Jean-Jérôme, mais sauf que les électeurs votent en fonction des listes qu'on leur présente. Et c'est quand on constitue les listes, des fois, qu'il y a des alliances qui sont empêchées parce que dans chaque
aussi.
Commune,
ils
la section va dire
« je ne
veux pas ». Ils
peuvent voter contre c'est cet électorat qui aujourd'hui est peut-être mouvant mais qui se porte quand même de plus en plus sur les écologistes, peut avoir envie, et c'est le cas dans les grandes villes, de ne pas voter Emmanuel Macron, par exemple, la République en marche ayant elle aussi une stratégie de conquête de cet électorat qui, vous avez raison, aujourd'hui est un peu mouvant parce qu'il n'y avait pas d'offre politique. On peut estimer que si le corpus politique d'Europe Écologie Les Verts, au regard de la faiblesse des autres partis de gauche et de la défiance, du manque d'attrait pour un certain électorat de gauche de La République En Marche, peut effectivement susciter une offre politique plus structurée face à un électorat plus déterminé qui peut faire la force d'Europe Écologie Les Verts dans les mois qui viennent.
Mais on peut réfléchir effectivement théoriquement à la constitution de listes, mais il faut savoir que les maires, et notamment les maires dont on a parlé, que ce soit à Nantes, à Rennes, bien sûr à Paris, mais dans des tas d'autres villes, ont des conseils municipaux très divers. Et ces municipales de 2020, ça va être les municipales de la diversité. Les maires vont nous dégainer des listes avec un arc très très large, et ça va être sans doute leur force, parce que les Français aujourd'hui, ils raisonnent moins par étiquette que, eh bien, on va dire que par projet, presque par efficacité.
Et surtout au municipal.
Éric de Couty. Et dans ce contexte-là, quelle peut être la place de la France insoumise qui fait aussi son université de rentrée sans son leader Jean-Luc Mélenchon, qui est au Mexique avant un voyage en Argentine et au Brésil? Écoutez Adrien Quatennens.
Jean-Luc Mélenchon va incontestablement nous manquer à toutes et tous ce week-end. Je pense que les insoumis d'ailleurs ici présents vont lui manquer à lui aussi. Jusqu'à la dernière minute, pour tout vous dire, sa présence était prévue comme c'est l'habitude. On attendait que quelques autres rendez-vous pour lui se débloquent, et notamment ce rendez-vous fort attendu d'une visite potentielle à Lula, dans sa prison du Brésil, qui s'est confirmée, mais qui a lieu tout début septembre. Et par conséquent, il nous est apparu, et à lui au premier chef, qu'un aller-retour en 15 jours était insensé économiquement, d'un point de vue du timing, et puis aussi écologiquement, faut le dire. Donc du coup, il est absent.
L'argument écologique, notamment pour justifier le fait que Jean-Luc Mélenchon n'est pas là, on y croit, ou on se souvient qu'il était tellement abasourdi par le score de Manon Aubry aux européennes et qu'il y avait eu un début de contestation au sein de son parti, Éric de Couty.
Très absent cet été, très absent, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Hein. On a lu quelques blogs depuis le Mexique, son périple le mexicain. Là, il vient pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tous les cas, il y a un malaise qui est profond chez les insoumis. Il y a des ruptures idéologique qui était mise sous le boisseau, qu'on a vu clairement au lendemain de la déroute. De leur point de vue, c'est une déroute, de la défaite au moins aux élections européennes. Aujourd'hui, c'est un parti qui est en crise, qui ne le dit pas. Et Jean-Luc Mélenchon, cette absence-là, je ne sais pas s'il faut épiloguer autour des raisons.
Non, mais il y a un symbole.
C'est très étrange qu'il ne soit pas là. Et ça révèle au moins le malaise qui est que traverse ce parti.
Michel Soudain.
Ce parti qui n'est pas un parti.
La raison politique de son absence pour aller rencontrer Lula dans sa prison.
C'est le 5 septembre.
Bah, mais on est le 23 août. Il était déjà en Amérique latine et il refuse de faire des allers-retours. C'est pas uniquement un argument écologique, c'est un argument de fatigue humaine qui peut s'entendre, mais son éloignement tout l'été s'explique aussi par la nécessité, comme après des défaites électorales qu'il a déjà eues, de prendre du champ, de réfléchir. C'est un homme qui réfléchit quand même pas mal sur les conditions de la vie politique et en tous les cas de lui, de son action politique. Donc il a pris effectivement des grandes vacances. Je pense que il est pas impossible qu'il revienne avec un certain nombre d'idées. Et en tous les cas, il laisse son mouvement, parce que c'est pas un parti, c'est un mouvement qui cherche son organisation, s'organiser par rapport à la suite des décisions qui ont été prises dans une assemblée générale au mois de juin, et s'organiser un peu tout seul. Il prend du champ par rapport c'est pas un homme qui se sent capable de diriger un parti. Il aime pas diriger un parti.
Non, mais il aime bien que tout le monde soit derrière lui. Il aime bien haranguer les fous. Il aime bien être le leader, Jean-Luc Mélenchon.
Il aime bien.
C'est le leader. Donc, la France Insoumise, c'est Mélenchon.
C'est pas que Mélenchon.
Bah oui, mais c'est
la France beaucoup plus de militants, en tous les cas, que Europe Écologie Les Verts. Parce que là aussi, il va y avoir. Et il peut y avoir entente entre les deux, parce que les deux sont sur, en gros, le même objectif. Je pense qu'il peut y avoir entente.
Ils auraient pu, effectivement.
Grenoble, en tout cas,
la France Insoumise, pendant ces dernières années, a été un des premiers mouvements à gauche, effectivement, à se saisir de la question écologique avec l'économie de la mer, avec cette planification écologique.
Ça remonte à 2008.
Oui, c'est des 10 dernières années. Voilà.
Sa contribution au Congrès de
Rennes. Tout à fait. Bon, voilà. Donc, depuis fort longtemps. Non, je pense, mais c'est banalité que de le dire, qu'il y a effectivement une crise de leadership avec un Jean-Luc Mélenchon très fragilisé, notamment par sa sortie contre la presse et la justice.
En plus, il a rendez-vous là avec la justice. Voilà.
Prochainement,
en septembre, pour les perquisitions qui avaient été houleuses.
Voilà, il y a des contestations internes avec des gens qui sont partis, de la façon dont il gère son mouvement, son parti, tout ce que vous voudrez, comme étant trop replié et trop autocratique ou oligarchique, en tout cas pas assez ouvert. Et puis surtout, ce qui est peut-être plus grave pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que effectivement, lui, l'homme de réflexion qui a fait passer le front de gauche vers la France insoumise avec cette notion de l'ère du peuple et puis de parti du peuple, et ben pour le moment, a plutôt échoué, parce qu'après le premier tour de la présidentielle, il y a eu législative où le score a quand même baissé, et puis il y a les dernières élections européennes, avec cette crise populaire des Gilets jaunes dont il n'a pas du tout bénéficié.
De vous couper, désolé. Très très vite, parce que sinon...
Il faut suivre dans les prochains mois François Ruffin, c'est une interrogation. Oui. La deuxième interrogation, c'est quelle stratégie de la France Insoumise et municipale ? Pour l'instant, ça n'est pas très clair.
La une d'aujourd'hui en France, vous l'avez, Yannick, pour demain ?
Oui, c'est le retour du vent sur les radars.
Et la une de Politis en ce moment
Nous reparaissons que la semaine prochaine.
Bon, alors mystère et boule de gomme. Merci à vous quatre d'avoir participé à ces informés très riches encore ce soir. À demain 20h pour un prochain rendez-vous avec les informés.